tous. C'est un plaisir pour moi d'être là, vous le savez. J'aime aussi la parole de Dieu, comme vous. Et c'est la parole de Dieu qui, en toute chose, règle nos vies. J'ai donné un titre à ce message, je ne le fais pas souvent, mais là, c'est souvent Jean-Marc qui le fait pour moi. J'ai donné un titre, « Confident de Dieu ». Et nous allons prendre notre premier texte, si vous le voulez bien, dans le psaume 25, à compter du verset 8 jusqu'au verset 14. Ce sera notre lecture de référence. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Et c'est plus particulièrement sur ce verset que nous allons porter notre attention, verset 14 donc. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je crois vous l'avoir déjà dit, j'ai connu dans mon adolescence une amitié vraie qui m'a profondément marqué et nous a amené, Agnès et moi-même, à appeler notre fils François-Xavier du prénom de cet ami d'enfance. Jeunes et idéalistes, ayant dans nos cœurs de nobles sentiments, nous partagions tout, absolument tout, joie, peine, interrogations d'adolescents, craintes et peurs, et projets d'avenir. Car lorsque l'on est jeune, on a des projets. Malheureusement, cette amitié prit fin. Je ne m'étendrai pas. Mais me souvenant de cette amitié, je ne peux m'empêcher de faire le lien avec cette affirmation des Écritures qui nous dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. » L'amitié de l'Éternel, vous mesurez la force de ces mots qui sont là. « L'amitié de l'Éternel » et pour ceux qui le craignent, ce qui exclut l'idée d'un Dieu vengeur, d'un Dieu gendarme qui serait versé dans le tout répressif. C'est le premier verset qui a flashé dans les premières heures qui ont suivi ma conversion un soir de juin 1972, tout juste converti, réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, et baptisé dans la foulée, je fus surpris, interpellé, bouleversé à l'idée que Dieu me réserve son amitié. Wow. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Il faut avoir toujours à l'esprit, bien-aimé, que la volonté de Dieu à l'égard de ses enfants, c'est-à-dire de chacun d'entre nous, est le meilleur, et de partager avec lui le meilleur. La volonté de Dieu est de partager le meilleur avec nous. Ne pas se contenter d'être sauvé, ce qui est magnifique, mais établir, développer, entretenir avec lui par Jésus-Christ une relation d'intimité, c'est possible. C'est même souhaitable, désirable. Vous savez que dans une amitié vraie, si vous l'avez expérimentée, si vous l'expérimentez, dans une amitié vraie avec une personne ou un groupe de personnes, on retrouve les caractéristiques suivantes. La confiance, la confidence, l'engagement réciproque, l'honnêteté, l'authenticité. Le mot « amitié » peut se traduire par « intimité ». L'intimité de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, version de M. Quen. La version NBS, Nouvelle Bible Second, traduit ce passage par « Les secrets de Dieu sont pour ceux qui le craignent ». Car lorsque l'on est dans l'intimité d'une personne, lorsque l'on partage avec celle-ci des secrets, on reçoit des confidences ou on lui confie des choses. Confiance et confidence vont de pair. Je note que dans notre lecture de référence, lecture d'introduction, il est fait mention d'une alliance, et cette alliance n'est autre que l'engagement de Dieu de nous instruire. Son alliance donne instruction. Quel est l'homme qui craint le Seigneur, est-il écrit dans un autre passage. Il lui enseigne la voie à choisir ou à prendre. Quant à l'honnêteté et l'authenticité, est-il besoin de rappeler que l'on ne biaise pas avec Dieu, mais que nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à développer avec lui une relation sincère, authentique, ce qui impose de notre part de ne rien lui cacher. De ne rien lui cacher. À l'occasion du premier confinement, nous avions été engagés à partager chaque jour une réflexion, si vous vous souvenez, appelée « papier du jour ». Et le papier du jour, un certain jour donc, de la part de Patricia, fut de nous apporter cette précision. Notre cheminement dans la foi est jalonné de révélations et d'apprentissage. Dieu veut nous révéler des choses, nous confier des choses. Il veut parler à nos cœurs et nous sommes dans un apprentissage. Il veut nous instruire. C'était juste, Patricia. Ton propos, tu vois, m'a touché, car cela devrait être une réalité dans la vie du croyant et non le privilège de quelques-uns. La promesse ici est pour celles et ceux qui le craignent, qui le révèrent. Crainte de Dieu, vous le savez, c'est trembler de tous ses membres, c'est avoir des sueurs froides. C'est me dire qu'est-ce qui va m'arriver. Non. Parce qu'il nous voit et qu'il sonde nos cœurs et qu'il peut même connaître les pensées les plus secrètes que l'on ait dans le cœur. Non. La définition de la crainte de Dieu donnée dans les Écritures n'exprime pas la peur, mais elle exprime le commencement de la sagesse. Proverbe 1, verset 7 affirme « La crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance, de la sagesse et de l'instruction. » Craindre Dieu, c'est devenir sage, raisonnable, dans son bon sens, et en arriver à le reconnaître dans toutes ses voies. C'est cela, craindre Dieu. C'est lui faire confiance en toute chose et pour toute chose. Lorsque les Écritures nous parlent de conversion, c'est-à-dire de changement, nous savons qu'il est dit « Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses ». Sont devenues, deviennent nouvelles. Là aussi, c'est quelque chose de très fort. Convertir, c'est lui avoir remis sa vie pour qu'il en prenne soin, c'est accepter qu'il la dirige. Voilà. Voilà le commencement de craindre Dieu. Alors, on peut se poser ces questions. Dieu a-t-il la main sur toutes les manettes de ma vie? Ou alors y a-t-il des domaines où je désire, où tu désires, où vous désirez rester maître? Considères-tu qu'il n'a aucun droit de regard? C'est à chacun d'y répondre. Dans ce cas, c'est-à-dire en l'absence de confiance, de lui faire confiance, ce qui va suivre et dont je voudrais m'entretenir avec vous ne peut s'établir. Car un climat de confiance réciproque est nécessaire. Si nous voulons entrer dans les confidences de Dieu, devenir son confident, et il le veut, il faut que ce climat de confiance réciproque soit établi. Je me répète à dessein, la volonté de Dieu est de partager le meilleur avec ses enfants. Climat de confiance, conditions requises pour développer une amitié vraie entre deux ou plusieurs personnes et les amener à tout partager. Ne pas en rester à l'acquisition du salut qui a été réglé une fois pour toutes et béni soit le Seigneur. De croire que Jésus est venu sur la croix et que par sa mort, il a payé la dette qui nous incombait. Ne pas en rester à l'acquisition du salut. Vous êtes, nous sommes sauvés, gloire à son nom, mais nous sommes invités à aller plus loin avec Dieu. Avoir l'assurance d'être sauvé, c'est magnifique. Et s'il y avait parmi nous quelqu'un encore qui n'est pas en lui cette assurance d'être sauvé, je lui dis, regarde à Jésus. Vois-le sur la croix, comme cela nous l'a été rappelé, ce Christ qui meurt pour le monde, qui donne sa vie, qui verse son sang et qui, par cet acte unique, universel, sauve les hommes. Il est bon de croire et d'avoir Jésus pour Seigneur et pour Maître. Nous sommes invités à ne pas en rester là. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, ou encore l'intimité de l'Éternel est pour celles et ceux qui le craignent. Vous connaissez ce passage, qui est magnifique aussi, d'Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, lui avec moi. Bon, mais c'est quelque chose, non ? Fragissez pas trop, je vois une ou deux têtes qui dodelinent dans la Pentecôte où nous avons fait nos armes. J'aurais eu un alléluia retentissant. Bon, c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose de magnifique. Établir, développer, entretenir une relation d'intimité avec Dieu, c'est possible. C'est écrit ici. Puis il y a des exemples dans la parole de Dieu. N'est-il pas dit au sujet de Moïse qu'il parlait face à face ? Pardon, le Seigneur parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Pas mal, hein ? Il y a encore Abraham. Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Il fut appelé ami de Dieu. Voyez-vous, le confinement nous a imposé d'avoir de la distanciation jusqu'à nous priver de rassemblements, de rencontres, d'agapes, terribles. Il y a aussi le fait que Agnès et moi n'avons pu serrer dans nos bras nos petits-enfants au Noël 2020. Ce fut difficile. Et c'est sans doute le cas de plusieurs ici, parce qu'il y a des papis et des mamies. Mais nous y avions souscrit. C'était là une règle sanitaire de bon sens, de prudence. Dieu mettrait-il de la distanciation entre lui et nous? Ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Ce n'est pas dans sa pensée. Ce qui caractérise Dieu, c'est un amour non quantifiable qu'il porte à chacun. Et qu'il reste le maître de toute chose. Ce mot distanciation, d'ailleurs, était-il si familier pour nous avant que la pandémie ne gagne le monde? Je ne crois pas. Vous connaissez pas cela, hein? Les évangiles font mention d'hommes malheureux, les lépreux, à qui il était interdit d'approcher les bien portants et qui, vous le savez, devaient se signaler en agitant une clochette. Cet ostracisme devait être terrible. Il n'existait à l'époque aucun autre moyen de communiquer. Bénissons Dieu pour les moyens de communication d'aujourd'hui qui sont à notre disposition. Bénissons Dieu. SMS, MMS, WhatsApp, Zoom, j'en passe. Oui, ok, c'est très bien. Mais je vous dis, frères et sœurs, prions Dieu d'avoir la sagesse d'en user modérément. D'en user modérément. Cette technologie pourrait bien servir à celui que la parole de Dieu désigne comme étant l'Antichrist ou l'Antéchrist à venir, et qui, nous le savons, est déjà à l'œuvre dans le monde. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Dans la Pentecôte, on parle beaucoup du retour de Jésus. Et on entend des alléluia qui fusent, car c'est une réalité. Y aurait-il de la distanciation de la part de Dieu, lui qui désire ardemment nous avoir avec lui et qui va bientôt donner l'ordre à son Fils de venir nous chercher, nous qui croyons, sur les nuées du ciel? Jésus revient. Jésus va revenir pour nous prendre. Vous le croyez? Je le crois. Les bras de Dieu nous sont ouverts pour nous accueillir. Et faites-moi confiance, introduits par Jésus-Christ, son Fils, nous serons accueillis dans le ciel. Vous y pensez parfois, à cet accueil que Dieu va nous réserver, à ce ciel que nous allons découvrir, qui est magnifique, si on en croit les quelques passages de la parole? Oui. Le meilleur est devant nous. Le meilleur est devant nous. Ce repli forcé, où villes et campagnes sont devenues silencieuses, a permis d'entendre la voix de celui qui frappe, mais que le brouhaha ambiant nous empêchait d'entendre, pour certains. On a entendu le toc-toc sur la porte. Du doigt de Dieu sur la porte de nos cœurs. Plusieurs ont pris le temps d'ouvrir cette porte et ont connu ou ont redécouvert ou découvert cette intimité avec Dieu. Il y a de bonnes choses quand même. Il y a de bonnes choses. Il n'y a pas que les restrictions. Pour nous, les enfants de Dieu, ça nous a ouvert les yeux sur 1000 moyens que Dieu avait à sa disposition et dont il était capable de se servir pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous parler. Je me tiens à la porte, pardon, et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Il est bien question d'intimité. L'amitié de l'Éternel est pour celles et ceux qui le craignent. Dans ce texte d'Apocalypse 3:20, il est question de souper et non d'une discussion banale que nous aurions eue avec le Seigneur lorsque cela s'est produit. Il est question de souper, dans un souper. N'est-ce pas l'occasion de partager, d'échanger, de se confier? C'est dans ce moment-là que des choses délicates sont dites. Nous sont confiés que les langues se délient. Le Seigneur ne va pas chercher à s'entretenir avec vous de la tendance météo des 3 prochains jours, du dernier indice du 440, ou de votre ressenti au sujet du feuilleton télévisé de la veille. Mais il va plutôt peut-être chercher à vous parler de l'état de santé de votre cœur, de vos aspirations légitimes, de vos relations avec votre famille, avec vos frères en la foi, vos sœurs en la foi, du don spirituel qu'il vous a donné et que vous n'exercez toujours pas, de son appel à le servir, restez sans réponse. Combien d'appels n'ont trouvé aucune réponse. C'est l'occasion pour lui aussi, peut-être, de vous rappeler une promesse faite, vous dévoiler son plan personnalisé pour votre vie, de bénédictions en réserve, de bénédictions qu'il a en attente pour vous, du devenir de son Église. C'est là connaître l'intimité de Dieu. À la veille de faire des choix importants, nous engageant, Dieu a su nous parler, Agnès et moi, par sa parole, par des visions, des songes, c'est arrivé, il n'y en a pas 36, mais un ou deux suffisent. Autant ainsi tout doute et toute crainte. Lorsque nous sommes venus nous établir dans le Morbihan et quitter cette magnifique région malouine, où nous étions confortablement installés, il y a eu des précisions. Je laisse à votre réflexion ce verset. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Dites-moi, pour avoir de l'espérance, pour espérer quelque chose, il faut avoir connaissance de cette chose. Il ne pas demeurer dans l'ignorance. Il faut que quelqu'un vous en parle. Parle de son existence, la définisse, en donne la description. Vous êtes bien d'accord? Je ne peux espérer que si on me parle d'une chose, j'ai un avenir et de l'espoir pour vous. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez vous mettre en route, vous m'adresserez vos prières et je vous exaucerai. Concernant l'Église, je n'ai pas de révélation particulière, je n'en attends pas, mais Dieu peut parler à l'un ou à l'autre, me parler. Mais je l'ai déjà dit, mais j'ai cette intime conviction que Dieu veut engager une action importante dans l'Église locale. Une action qui sera soudaine, courte, initiée par son esprit. J'ai cette conviction. Je n'en ai pas de révélation, mais j'ai cette conviction. Pour ce faire, Dieu a besoin d'acteurs et non de figurants. Les Écritures, d'ailleurs, nous désignent comme ouvriers avec Dieu. Dieu a besoin d'ouvriers, des personnes comme vous, comme moi. Et pas seulement Jean-Marc ou Michel en charge de cette Église. Des personnes à l'écoute pour recevoir toute instruction utile pour cet ultime plan de salut qui est dans sa pensée. Vous savez, nul besoin de vous faire de dessins, de schémas, dehors. Dehors, hommes et femmes, jeunes gens, jeunes filles, vieillards, souffrent, pleurent, désespèrent et sont pris de panique lorsqu'ils veulent un instant essayer de se projeter pour l'avenir. Certains n'ont plus aucun repos. Vous m'entendez? Certains n'ont plus aucun repos. Qui va les conduire au Seigneur Jésus pour qu'ils entendent de sa bouche ces paroles? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, j'ai du repos pour vos âmes et mon joug est doux et léger. Le monde a besoin d'entendre ces paroles de Jésus. Mais qui va le leur dire, si ce n'est nous qui sommes dépositaires de la parole de Dieu? Faites des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et de l'Esprit et instruisez-les. C'est la part qui nous revient. Alors vous allez me dire, frère, mais comment faire? Comment partager? Je ne sais pas témoigner. Les rares fois où je l'ai fait, j'ai été moqué, ridiculisé, rabroué. Frère, je n'ai pas d'aisance. Vous savez, je n'ai pas d'aisance. Dans mon fort intérieur, là, je tremble. Ça ne se voit peut-être pas, mais je tremble quand j'annonce la parole de Dieu, parce que c'est quelque chose de sérieux. Frère, je n'ai pas votre aisance. Les temps ont changé, les personnes aussi, et aujourd'hui, les cœurs s'ouvrent. Le moment vient où nous allons pouvoir enfin être entendus. Il y a eu un don spirituel il y a quelque temps où il nous a été dit que le moment venait où l'on se saisira on nous saisira par la manche et on nous posera la question « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Vous êtes prêts à répondre à ces personnes ? Comment faire ? Que vais-je dire ? Vers qui me tourner ? Dieu est prêt à nous instruire dans son intimité. Il désire nous instruire. Comment va-t-il s'y prendre ? Quelle orientation a donné à ma vie ? Quel choix faire ? Quelle instruction pour son Église afin d'entreprendre une action, arrêter un choix, orienter ses efforts ? Dieu est prêt. Dans ce climat d'intimité que nous allons établir, développer avec lui, est prêt à nous instruire, à nous dire. Dieu désire travailler avec les siens et son esprit s'y emploie, nous sommes ouvriers avec lui. Une amitié vraie est une chose désirable. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour, l'amitié, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. C'est fort, hein, Proverbe 15, 17. Monsieur Cuen traduit ce passage, « Mieux vaut un plat de légumes avec l'amour ou l'amitié que la viande la plus savoureuse assaisonnée de haine. » Il y a aussi cet autre verset, puis je vais arriver. L'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère. Proverbe 17, verset 7. C'est un 17. C'est important de savoir qu'il est l'ami qui aime en tout temps et quand dans le malheur il se montre un frère. Vous le savez aussi bien que moi, c'est dans l'épreuve que l'on voit qui sont nos amis et ils ne sont pas légion. En déléguant son Fils Jésus-Christ, Dieu a voulu nous dire tout l'amour qu'il nous portait. D'ailleurs, le Fils est venu sur la terre pour accomplir cette volonté d'amour de Dieu, que nous soyons sauvés, et de nous en parler, et de nous laisser des paroles qui conduisent à la vie. En déléguant son Fils, en envoyant son Fils, Dieu nous donne la preuve de l'amour, de l'amitié qu'il nous porte. Et Jésus, qui se veut notre frère, a nous tous dit, à chacun, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. » Quand la maladie est là, que la dépression survient, inexpliquée, douloureuse à vivre, qu'elle est prégnante, que vous avez l'impression de vous enfoncer un peu plus chaque jour, comme tiré vers le bas, Jésus est là qui guérit. Amen. Jésus est là qui guérit. Si quelqu'un souffre de dépression ce matin, s'il est découragé et si l'on en croit ce que le Seigneur a dit, il y a quelqu'un dans cet état de découragement que la dépression guette ou que la dépression a déjà touché, atteint. Je lui dis guéris. Jésus guérit. Je lui dis, Jésus est là pour te relever, pour te restaurer, j'en témoigne. Touché au plus profond de moi-même, ayant touché le fond, Dieu m'a relevé. Ça a demandé du temps, cette année, mais il m'a relevé. Et je puis vous dire une chose, c'est que pendant ces 7 années, il m'a confié des choses. Il m'a parlé, il a parlé à mon cœur. J'ai pu remettre ma vie en ordre, regarder l'avenir différemment. Jésus guérit. Un ami aime en tout temps. Voilà qui caractérise la personne de Jésus qui, pour nous, désire le meilleur. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est alors que des choses importantes pourront nous être confié. Une précision, ne vous attendez pas à ce que Dieu vous dise « Je reviens le 30 janvier à 8h31:57. » Si quelqu'un vous dit cela, vous souffle ça à l'oreille, vous dites « Mon ami, hop, excuse-moi, tu arrêtes là ton discours. » je ne veux pas t'entendre. Personne ne sait ni le jour, ni la date, ni l'heure. Mais une chose est certaine, il revient. Ce sont là les mauvais ouvriers de la dernière heure. Et si l'on vous dit, il est ici, il est là, ne le croyez pas. Il y aura de faux prophètes dans ces temps que nous avons abordés. L'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Deux qualités essentielles pour que soit pérennisée cette amitié, la droiture, la probité, l'intégrité. Voilà ce que Dieu aime voir dans la vie d'un homme. Il aime voir ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est sincère. Et ce doit être la préoccupation du croyant pour tous les instants de sa vie et prévaloir dans ses choix. Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moral, bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et le Dieu de paix sera avec vous. Philippiens 4:8. Il reste du travail à faire dans mon cœur, je l'avoue, je le confesse. Nous avons là tout un programme qui, si nous le mettons en pratique, nous mettra dans la présence de Dieu. Je termine. Je ne vous appelle plus serviteur ou esclave, parce que le serviteur ou l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, dit Jésus, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Dieu veut nous instruire. Dieu veut nous confier des choses. Il désire nous parler. Mais allons-nous entrer dans cette intimité qui lui permettra de le faire. Père, merci pour ta parole qui nous instruit, qui nous exhorte, pour ta pensée, celle qui était sur mon cœur depuis plusieurs jours. Peut-être y a-t-il eu des choses déjà dites, déjà affirmées par ma bouche, mais je pense qu'il était nécessaire que ce matin, quelqu'un, peut-être plusieurs, ait besoin tout à nouveau d'entendre ces choses, ces vérités. Merci de ce que tu veux secourir, de ce que tu veux relever, guérir, mettre au large quelqu'un qui aujourd'hui est dans la souffrance, dans la peine, dans le besoin, dans des attentes précises. Je crois que tu es celui qui a voulu parler ce matin, mais pas seulement parler, qui désire agir. Maintenant, au nom de Jésus, amen.